Salut Christian, salut
Allô.
tout le monde. Ben cette semaine, en fait, j'y vais avec une thématique un peu de bonnes, mauvaises nouvelles, vous allez voir. D'abord, on va à Paris, où, bon, on le sait, la situation des personnes migrantes est très précaire. Il y a des milliers d'entre eux et elles qui sont sans logis et campent sous les ponts, sur des places, etc. Et depuis le démantèlement du camp de Calais, dont on vous a abondamment parlé dans nos chroniques des apatrides anonymes, la situation semble s'être empirée. Alors donc, la mairie de Paris a ouvert un centre dit humanitaire dans le 18e arrondissement pour relocaliser les personnes migrantes, qui sera géré par l'association Emmaüs. Je dis relocaliser et non reloger parce qu'il s'agit bien d'une mesure provisoire et temporaire, ce qu'ils appellent même une mise à l'abri rapide, où on va accueillir les migrants le temps que l'État leur propose une autre solution d'hébergement. Donc, au-delà de cet hébergement temporaire-là, il semble pas avoir de plan quelconque. Ça semble être plus une stratégie, en fait, pour gagner du temps. Donc, à leur arrivée à Paris, les personnes migrantes vont être appelées à passer par ce site-là, où on va leur donner des informations sur leurs droits ainsi que des conseils. Ça va être un peu un centre de tri, si on veut, à partir duquel les hommes seuls vont être séparés des familles, des femmes seules et des enfants. Les hommes isolés vont être ensuite redirigés vers un grand hall qui sera doté d'une capacité d'accueil de 400 lits, donc 100 chambres de 4 personnes, puis qui devrait atteindre les 600 lits d'ici la fin de l'année. Quant aux familles, aux femmes seules et aux enfants, ils seront, quant à eux, redirigés vers un autre centre situé dans une ancienne usine à Ivry-sur-Seine, donc en banlieue, et qui devrait, lui, ouvrir ses portes au début de l'année prochaine avec 350 places. Fait que là encore, on sait pas, les femmes, les familles et les enfants, ils vont faire quoi entre maintenant et le temps que l'autre centre ouvre ses portes, on le sait pas trop. Bien sûr, bon, faut saluer d'une part l'initiative là parce que évidemment les conditions de vie dans lesquelles les personnes migrantes vivaient dans la rue sont très difficiles. Mais on peut quand même questionner sur le but de l'opération. Il semble surtout que la mairie veuille éviter l'apparition de nouveaux campements dits sauvages à Paris. Surtout quand on voit que l'annonce est survenue une semaine après le démantèlement sauvage, celui-là, par la police d'un camp qui abritait plus de 3800 personnes au centre de Paris, là, entre les stations de métro Jaurès et Stalingrad. Faut dire que la mairie subissait de plus en plus de pression de la part des résidents autour de ce campement-là, mais surtout de la part des commerçants. Donc, comme je le disais, même si les conditions dans ce campement-là étaient très difficiles, au moins les personnes, le problème était visible. Tandis que là, c'est difficile de pas voir cette opération-là comme une tentative d'invisibilisation de la crise migratoire en France et de la situation des personnes migrantes en France. Je vous amène ensuite en Hongrie, petit saut vers la Hongrie où, bon, Mathieu vous a parlé dans sa chronique il y a un mois de l'échec du référendum qui avait été tenu en octobre par le premier ministre hongrois Viktor Orban, référendum contre les mécanismes européens de répartition des réfugiés. Les résultats du référendum avaient été invalidés en raison du trop faible taux de participation au référendum. Alors, le premier ministre, on apprenait là, que le premier ministre issu de l'extrême droite a subi un nouveau revers la semaine dernière en échouant à faire inscrire dans la Constitution sa politique hostile aux migrants. Orban a manqué par 2 voix seulement la majorité des 2/3 nécessaires pour faire passer ce texte-là qui aurait rendu illégal, selon le droit hongrois, la relocalisation par l'Union européenne de réfugiés en Hongrie. Faut dire que ça fait 2 ans là que Orban ne cesse d'amplifier une campagne aux accents très forts de xénophobie contre l'immigration extra-européenne. Il refuse d'accueillir 2300 demandeurs d'asile qui lui ont été dévolus dans le cadre du plan européen de répartition dans l'Union européenne de 160 000 demandeurs d'asile. Ce qu'il y a de particulier dans cette... parce que je vous ramène là aux mauvaises bonnes nouvelles ou aux bonnes mauvaises nouvelles, c'est que ce qu'il y a de particulier dans cette défaite-là, en fait, c'est que elle est largement due à l'extrême droite elle-même. C'est-à-dire que le principal d'Orban, qui est l'autre parti d'extrême droite, Jobbik, il avait conditionné son soutien à cette mesure-là, à la suppression d'un régime de permis de résidence qui était accordé depuis 2013 aux riches investisseurs extra-européens, genre russes, chinois et ressortissants de pays du Moyen-Orient, pour l'essentiel. Et donc, les élus de Jobbik qui étaient présents lors du vote ont brandi une banderole portant l'inscription « Le traître, c'est celui qui laisse entrer les terroristes contre de l'argent, rien de moins ». Et Orban, lui, de se targuer du fait que son parti soit le seul à défendre les intérêts de la nation et que ce sont les autres qui sont des traîtres. Donc, on peut voir qu'il s'agit plus nécessairement, plus simplement d'un bras de fer entre la Hongrie et l'Union européenne, mais bien d'une lutte de pouvoir intestine dans les rangs de l'extrême droite en vue des prochaines législatives en 2018. Donc c'était mon autre mauvaise nouvelle. Et la prochaine, en fait, c'est que je vous ramène au Québec un autre exemple comme quoi l'extrême droite est divisée et excelle dans les stratégies de se tirer dans le pied. Cette fois au Québec, comme je disais, à la fin octobre, il y a une nouvelle qui est un peu passée inaperçue. C'est qu'on apprenait en fait la naissance d'un Front national québécois. Imaginez-vous donc. Le fondateur résident de Québec annonçait être confiant de pouvoir présenter des candidats aux élections de 2018 et il se donnait 2 ans pour faire connaître les idées de son parti. Quelles sont donc ces fameuses idées? Au-delà de l'indépendance du Québec, il s'agit en fait d'un remanchage du programme du FN français, en moins subtil toutefois, genre détruire les mosquées, interdire l'islam au Québec, abolir toute forme d'accommodement raisonnable ainsi que les programmes de discrimination positive visant à favoriser l'embauche de citoyens issus des minorités culturelles. Tout un programme, mesdames et messieurs. Mais là, ce qu'on apprenait, c'est qu'à peine une semaine après avoir réservé le nom Front national québécois auprès du directeur général des élections, revirement de situation, il annonce qu'il va changer son nom parce que il a reçu une mise en demeure de nul autre que Marine Le Pen elle-même en personne. Marine Le Pen dénonce donc non seulement l'usurpation du nom de son parti, mais aussi de l'image de son parti. Et en plus, il dénonce également le contenu des déclarations de Monsieur Daniel Boucher et se dissocie complètement de son programme, tant dans le fond que dans la forme, qu'elle qualifie, tenez-vous bien, de délirant, de fantaisiste et de très éloigné de celui du FN français. Bon, belle bande d'hypocrites.
Est-ce qu'on sait s'il était venu pour ça récemment? Parce qu'il y avait un FN en construction ici.
Non, elle était pas venue pour ça, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que lui, il s'est fait prendre en photo avec Marine Le Pen lors de son périple au Québec. Et depuis la réception de la mise en demeure, cette photo-là a mystérieusement disparu du site du FN québécois. Et donc, ce FN québécois s'appellera désormais l'Alliance nationale réformiste du Québec. Mon Dieu. Faut croire que M. Boucher manque cruellement d'imagination et excelle dans l'usurpation de nom, parce que, en fait, M. Boucher, c'est un ancien militant au sein de l'Alliance canadienne. Alliance, alors qu'elle était dirigée par Stockwell D. Donc, il passe de l'Alliance canadienne à la formation d'un nouveau parti, Alliance nationale réformiste du Québec. La morale de cette histoire, ce que je vous dirais, c'est que à quoi bon se réinventer quand on peut faire du neuf avec du vieux? Alors, ben ouais. C'est ce qui clôt...
Ben, c'est ce qu'on se dit, hein? Ben ouais.